M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Pour le savoir, cette semaine, on est parti à Nancy à la rencontre de Nicolas Mathieu. Il est écrivain, il a obtenu le prix Goncourt pour son deuxième livre, Leurs enfants après eux, un grand roman d'apprentissage qui dépeignait également la fin de la classe ouvrière. L'histoire de trois adolescents à Hayange, dans l'est de la France, que l'on regardait grandir, apprendre, s'aimer, se déchirer le temps de quatre étés. Il y eut ensuite Connemara et son monde gangréné par l'idéologie de la gestion et les cabinets de consulting dans lequel on s'interrogeait avec Hélène, son personnage principal, qu'est-ce qu'une vie qui vaut d'être vécue ? Une interrogation que l'on retrouve aujourd'hui dans Le ciel ouvert, le nouveau livre de Nicolas Mathieu. Alors ce n'est pas un roman, mais une compilation de textes que l'écrivain avait posté sur Instagram et qui était au départ adressé à une femme aimée, mais qui n'était pas libre. Autant de fragments qui parlent d'amour, de transmission, de filiation, de mélancolie. Aussi, autant dire un terreau fertile, pour le goût de M. Allez, c'est parti, on se dirige vers chez lui, un quartier résidentiel de Nancy, avec ses petites maisons en pierre. On prend à droite, on y est. Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Nicolas Mathieu, on est chez vous. Ouais. C'est un espace qui vous ressemble ici?
Oui. Oui.
Vous décririez comment?
Il n'y a que des livres et des vieux trucs. Je crois qu'il n'y a pas... Enfin, le mobilier est un peu...
C'est quoi? C'est une petite maison?
C'est une petite maison de ville, mitoyenne, des deux côtés. À Nancy, il y en a plein comme ça. C'est-à-dire, c'est une... Une petite maison du début du XXe siècle avec un petit jardin derrière. Elles se ressemblent toutes. Elles sont assez mignonnes. Et puis, il n'y a pas de voisins au-dessus. C'est ça qui est bien.
On s'est avancé dans le salon. Une grande pièce avec cuisine ouverte. À gauche, une bibliothèque en bois. Achetée, nous a-t-il dit, après le Goncourt. Un peu partout, des piles de livres. Deux, trois chemises prépies sur cintre. On s'est assis face à face autour de la table basse et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Spontanément, c'est la clémentine qui me vient. Je pense que c'est lié beaucoup... j'ai grandi dans les Vosges, dans l'est de la France et... Ce qui est très important dans l'Est, c'est la Saint-Nicolas. Voilà, c'est un peu, il y a des défilés, on fait ça chaque hiver, ça prélude aux fêtes de Noël, etc. Et j'ai des souvenirs très vifs des Saint-Nicolas en pain d'épices, des clémentines, de l'odeur, du zeste de clémentine sur les doigts. Et c'est une odeur qui est très liée à mon enfance. Et à chaque fois que j'en mange, ça me rappelle ça et ça me ramène à une forme de confort affectif de cette période. Puis ça me rappelle d'autres souvenirs, parce que les premières cigarettes que j'ai fumées avec mon cousin derrière la bibliothèque, on avait tellement peur de se faire gauler qu'on emportait des clémentines avec nous et on se frottait les doigts avec des zestes de clémentines.
Vous le disiez, vous avez grandi dans les Vosges, à Golbey, c'est ça?
Oui, c'est ça.
La maison ou l'appartement dans lequel ou laquelle vous avez grandi, ça ressemblait à quoi?
Mes parents, comme beaucoup de gens de leur génération, puis de leur classe sociale, quoi, ils ont eu comme objectif dans la vie de... Construire, voilà. C'était pas exactement une zone pavillonnaire, pas un lotissement, mais enfin, c'était un quartier avec des petites maisons qui se jouxtaient. Et c'était, un pavillon avec un toit très pentu, entouré d'un jardin avec des arbres fruitiers, deux salles de bain, une seule télé, de plein pied, un seul étage, je me souviens. Voilà, ça a été la grande affaire de la vie de mes parents, quoi. Ouais. Avoir sa maison.
Et à l'intérieur de la maison, c'était meublé comment?
Alors mes parents, encore une fois, c'était c'est plus tard que je me suis rendu compte ce qui distinguait ces intérieurs-là. Mais c'était du carrelage et pas du parquet. Plutôt du mobilier rustique.
Ouais.
Et ils avaient la passion de ça, des meubles solides, des bibliothèques. Des... et puis, je me souviens surtout, parce que c'est une chose après qui m'a beaucoup manqué et qui me manque encore, c'était une maison très bien isolée. Il faisait chaud l'hiver, très chaud, et il faisait bon l'été. Et après, dans tous les logements que j'ai habités, étudiants, jeunes parisiens, puis à Montreuil, puis de retour à Nancy, etc., j'ai toujours eu froid l'hiver.
Votre père, il était électromécanicien, c'est ça ? Si vous pensez à ses goûts, ou ce que vous en perceviez, vous, quand vous étiez enfant, plus exactement, vous diriez quoi ? Qu'est-ce qu'il aimait ? Enfin, qu'est-ce qu'il animait dans la vie ?
Mon père, il avait la passion du sport. Pff, des dimanches entiers, regarder des grands prix, c'était tellement chiant.
À la Formule 1 ?
Ouais. Ça passait encore sur... Et puis, alors, c'était chiant à l'époque, c'était pas scénarisé ni rien. Hein. C'était... On regardait des voitures tourner en rond.
Ça durait très, très longtemps.
C'était interminable. Mais le pire du pire, ça devait être les dimanches à regarder du patinage artistique. Ça m'a... j'ai des souvenirs enfants d'ennui. Et puis après, là, ça allait mieux. On a regardé de l'athlétisme ensemble. On a regardé beaucoup de foot.
Il Mais avait c'était aussi... la passion du sport en tant que spectateur uniquement.
Il en a fait beaucoup. Ah, oui. Mon père, il venait d'une fratrie de 10 enfants. Principalement des garçons, et tous faisaient du sport, de la gym, du foot, de la muscu, des choses comme ça. Jusqu'assez tard dans sa vie, ça a été quelque chose d'important, mais c'était quand même plutôt comme spectateur. Il allait voir des matchs aussi à Épinal, et des choses comme ça.
Ouais.
Et puis alors, sa grande passion quand même, c'était aussi les comédies navrantes.
Genre quoi ?
Genre la 7ème compagnie, des trucs comme ça.
Ah oui, mais j'ai vu, vous avez posté des VHS et il y avait la 7ème compagnie.
Absolument.
Et il y avait, ouais, sur Instagram, j'ai vu
Mon père, alors un peu par provocation, parce que assez vite, moi, pour me distinguer, j'ai joué à l'intellectuel de la famille, mais mon père, il me soutenait que Jean Lefebvre était la plus grande star française.
Ces passions, vous les partagez ou pas du tout ? Enfin, tant pour le sport que pour le sport, pas trop ?
Non, pas du tout. Et je pense même qu'on était dans un rapport œdipien assez fort, c'est-à-dire de conflictuel, et que j'ai tout fait pour marquer des distances avec mon père, jusqu'au moment où je suis redevenu comme lui.
Oui, mais en tout cas, passer toute une première partie de l'existence à se démarquer de ses goûts aussi à lui.
Oui, vraiment.
Ouais.
C'est-à-dire, c'était des goûts de beauf, quoi. Moi, c'est comme ça que j'identifiais le truc. Et puis sans doute, ma mère, elle était plus littéraire quand même. Elle lisait davantage et j'étais plus de son côté.
Comptable, votre mère ?
Ouais.
Ouais. Et donc elle aimait la lecture ?
Ouais, davantage. Ma mère, elle aimait beaucoup, vous savez, l'école de Brive. C'était Claude Pourchet, des gens comme ça, qui écrivaient des sagas familiales qui se passaient dans des fermes sur 4 générations. Vous voyez, ça, elle adorait ça. Elle était abonnée à France Loisirs. Et
l'ancêtre des séries, elle aimait les séries.
Ouais, c'est un peu ça.
Ouais.
D'ailleurs, si on devait parler de son goût, les choses dont je me souviens quand j'étais gamin, c'est par exemple la passion qu'elle a eue avec des cousines et des tantes. On s'en souvient plus de ce truc-là, mais ça a été énorme. Les oiseaux se cachent pour mourir.
J'ai pensé quand vous avez dit... Ouais.
La France entière était amoureuse de Bricassard.
Travail prenait beaucoup de place dans leur vie ou...
Et oui, ils bossaient beaucoup. Et ils se plaignaient beaucoup de leur travail. C'est un truc dont je me souviens. Les dîners, le soir, on se plaignait des chefs, on se plaignait des cadences, on se plaignait du rythme. On aimait bosser. Hein. C'est-à-dire, c'était pas un truc, j'ai pas envie. C'était des récriminations par rapport à des systèmes de... Un peu... C'était pas formulé comme ça, mais quand même un peu d'exploitation et de... Management déjà un peu costaud, quoi.
Ou on subit aussi.
Ouais.
Oui.
Ouais, j'ai vu mes parents subir beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail. Moi, j'avais le fantasme quand j'étais petit d'être indépendant, quoi, ne pas avoir à subir ça. Et à mon tour, plus tard, j'ai subi.
Moi, je vous posais la question de la place du travail, parce que ça peut aussi prendre pas mal le pas sur les passions, sur la disponibilité qu'on a à faire autre chose.
Ma mère, pendant toute sa vie, elle a dû réfléchir à comment faire 2 repas par jour, 7 fois par semaine. C'est un enfer. Non, mais, c'était la grande litanie, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Et mon père n'a jamais cuisiné de sa vie.
Il y avait un plaisir de manger dans votre famille ou...
Ouais, ma mère cuisine très bien. Encore maintenant, et mon fils par exemple adore la nourriture, la cuisine de ma mère, ouais. Ouais, ça prenait de la place.
Qu'est-ce que vous faisiez ensemble ? Enfin, si on essaye de définir un peu le goût de cette famille, qu'est-ce qui était important de faire ensemble ?
Les grands souvenirs d'activités communes, c'est les vacances d'été. Donc, la plage, les locations, tous les trucs qu'on retrouve dans Connemara, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire tout ce temps qui rachète les peines de l'année, quoi. Et qui fait que pendant 2 ou 3 semaines, on a le droit de rien foutre.
Vous étiez que 3, c'est ça ? Vous étiez le seul enfant. Donc, vous étiez beaucoup seul avec vos parents aussi. Vous avez passé beaucoup de temps avec vos parents.
Pas tant que ça, en fait. Ou alors, j'ai oublié, mais... Enfin, le grand truc, quand même, dans mon milieu, c'était d'aller se rendre visite les uns aux autres. C'est-à-dire, mon père avait une grande fratrie, ma mère plus petite, mais plein de cousins. On allait voir un tel ou un tel, prendre le café, dîner. C'était les visites au tonton, quoi. Et donc, je passais beaucoup de temps avec mes cousins, en réalité.
Ouais. Ouais. Et la politique, c'était important chez vous ?
Ouais.
Vos parents, ils parlaient beaucoup de politique.
Mon père, surtout. Mon père, il était de gauche-gauche. Il a été syndiqué à la CFDT pendant... représentant du personnel pendant des années et des années et des années. Mm. Et puis, il a été de moins en moins de gauche, quoi. Et il a suivi vraiment le parcours classique d'un baby-boomer prolétaire devenu de classe moyenne et qui vire de bord, quoi. Donc, ça a imprégné notre vie. Et puis, ça a été l'occasion de graves conflits entre nous. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on s'est engueulés à tous les repas, quoi.
Oui.
Je pense qu'on a cristallisé aussi sur la politique. Ça a été le lieu d'un affrontement oedipien entre mon père et moi, ouais. Et vous voyez, ce qui est curieux, c'est qu'on s'est engueulés pendant 10 ans, et je n'ai pas cessé de lui dire qu'il avait des idées de merde et que ça tenait pas la route. Et puis, dès que j'ai écrit, j'ai commencé à montrer comment ces gens réfléchissaient et à exposer leurs raisons. Voilà.
À comprendre que pourquoi chacun a ses raisons, vous voulez dire ?
C'est ça.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M.
Où est-ce qu'on est, Nicolas, là ?
On est dans mon salon.
Il ressemble à quoi, ce salon ?
C'est un salon qui est quand même très tourné vers une bibliothèque qui occupe tout un mur. C'est un salon qui n'est pas orienté vers une télévision. Elle est dans un coin, mais je la branche uniquement quand il y a des matchs de foot ou que mon fils est là.
Et alors, comment elle est organisée, cette bibliothèque ?
Elle est organisée à la fois par format, par tendance politique, par collection, par couleur. Par exemple, là, vous voyez, il y a tous les polars. Comme c'est la littérature de genre, il y a aussi la SF qui est juste à côté. Mais il y a aussi des rayons de gauche et des rayons de droite.
Donc là, il y a Guy Debord, par exemple, là, à gauche.
À gauche, il y a par exemple Héribon, Guy Debord, Bourdieu. Et puis au-dessus, là, par exemple, il y aurait la littérature un peu soit de droite, soit hussarde. Morand, Antoine Blondin, mais aussi Bernard Franck. Voilà, c'est la littérature un peu sanglée des années 50. Là, c'est que les biographies, par exemple. Il y a des rangements par collection, par thématique, par orientation politique, par genre. Il y a un cadre avec une photo de quelqu'un qui m'est cher, et c'est Jean-Patrick Manchette. C'est-à-dire, la seule photo de famille qu'il y a dans cette bibliothèque, c'est quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Ouais. Je trouve la photo très belle. Et
pourquoi vous l'aimez tant ?
Je me suis beaucoup identifié à lui, parce que c'était un soutier, un galérien de la littérature pendant très longtemps. Et que moi aussi, je ramais, j'ai lu son journal, j'ai lu ses chroniques aussi qui m'ont beaucoup influencé parce qu'elles m'ont permis de trouver des solutions à des problèmes que je me posais à l'époque, effectivement, de comment articuler le plaisir du récit au style. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une grande place dans ma vie.
C'est la figure tutélaire de la bibliothèque, quoi.
Ouais. Voilà.
Et alors vous, si vous pensez à vous, aussi loin que vous vous en souveniez, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous ?
Alors, moi, ce qui vraiment me passionnait, tout petit, et puis aussi parce que ça a été alimenté, hein, c'était vraiment les films et les livres. Voilà. Je me souviens que j'allais à la bibliothèque, je me souviens que j'étais abonné à des revues qui parlaient de littérature déjà. Enfin, genre je bouquine.
Bayer Press.
Avec des, il y avait des bios d'écrivains, il y a des extraits de livres, etc. Et je fantasmais ça complètement. Je fouinais beaucoup à la bibliothèque municipale. Et puis, les films. Et je me souviens que mes parents ont eu très tôt un magnétoscope.
Ouais.
C'était secret même, parce que c'était sous Mitterrand, il y avait eu une taxe spéciale, et ça coûtait très cher les magnétoscopes, et il l'avait eu d'une manière un peu sous le manteau, je ne sais plus très bien.
Ouais. Alors,
j'avais pas le droit de dire qu'on avait un magnétoscope, mais il m'enregistrait les films du mardi soir et du dimanche soir, et je matais ça le mercredi ou le samedi, et ça, ça a été vraiment dévorant. Puis quand j'ai eu le droit de regarder le film du dimanche soir, ça a été un tournant dans ma vie, et les génériques Gaumont, encore aujourd'hui, m'émeuvent, quoi, parce que c'est... Parce que ça réveille des souvenirs.
Vous pensez que c'était d'être immergé dans des mondes, enfin des histoires, ou c'était les acteurs, les actrices, c'est quoi qui vous fascinait là-dedans?
Bah, c'est qu'on me raconte des histoires, c'est la fiction.
Ouais.
Et puis je m'identifiais beaucoup, beaucoup, et j'avais la folie des déguisements.
Ah ouais?
Moi, quand j'ai vu Laurence d'Arabie, j'ai porté un turban pendant 2 semaines, quoi. C'était vraiment ça. Je fumais des fausses cigarettes. Et tout. Je me souviens, James Bond, j'ai tout vu.
Ah.
Et alors, mon enfance, c'était de porter un costard, quoi.
C'était quoi votre époque préférée?
Bah, j'aimais beaucoup les Roger Moore, en fait. C'était plus le côté fun gadget. Alors ça, pour un enfant, il y avait c'était super.
C'est ça qui était possible.
Ouais, voilà.
Quand il allait voir qu'il découvrait les nouveaux gadgets.
C'est exactement. C'était la matraque qui faisait sous-marin, etc. J'adorais. Puis après. Les films topless ont occupé une grande importance, c'est-à-dire Stallone, Schwarzenegger et Van Damme. Alors ça,
topless pour les hommes.
Ouais, absolument. Moi, c'est les poitrines d'hommes qui m'intéressaient à ce moment-là.
Ouais.
Et voilà, c'était les piètres modèles de masculinité que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Mais j'étais complètement fasciné par tout ça.
Pour ces hommes très costauds, enfin très.
Bah ouais, c'était les années 80. On était biberonnés à ça.
Ouais, après les Stallone, ils avaient des fêlures quand même. Enfin, les personnages, les Rocky, les.
Ouais, je suis pas sûr que j'étais ultra sensible à la fêlure à ce moment-là. C'était plus la castagne, quoi, qui me. Mais Rocky, c'est vraiment un film qui m'a regardé grandir et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et selon les âges de la vie auxquels je l'ai vu ou je le vois, ça me dit des choses différentes.
Qu'est-ce que vous aimez tant dans ce film?
Alors, ça a dépendu des époques, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui me touche vraiment, c'est que mine de rien, il y a une éthique prolétarienne dans ce film qui est un peu planquée, parce que c'est aussi une grande fresque réganienne, hein, les Rocky, mais de la ténacité. C'est-à-dire, dans les bons Rocky, il ne gagne pas vraiment, juste il tient debout. Il en prend plein la gueule. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive à mon père. J'ai l'impression que moi, pour écrire, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Il a fallu tenir longtemps avant que ça marche et que c'était pas tellement triomphant. Et qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression que la vie nous met des trempes à chaque virage et que la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est de tenir le coup.
Vous disiez, donc, cinéma, grande passion, la lecture aussi. Qu'est-ce qui a été le marquant pour vous, ou constituant, vous diriez, aujourd'hui, dans les lectures que vous avez faites? Vous avez lu beaucoup de choses,
L'enfance, c'est Arsène Lupin et Sherlock Holmes. Et c'est marrant parce que Sherlock Holmes, quand même, quand on a 10-12 ans, c'est pas rien, quoi. Parce que c'est un héros d'une grande, grande ambiguïté morale, sexuel même, ça va assez loin. Je pense que j'en étais pas totalement conscient, mais c'est pas des super-héros, quoi. C'est des personnages quand même assez sombres. Et puis il y a eu un cap, je pense, qui a été franchi à 13 ans avec le portrait de Dorian Gray. Ça, vraiment, c'est l'entrée dans les vrais livres. Je me souviens d'avoir lu ce livre avec une délectation, en freinant, quoi, pour pas le finir trop vite. À 14-15 ans, il y a eu la nausée de Sartre. Là, on rentre quand même dans les trucs sombres, la déprime. Le monde te cache quelque chose, il est mauvais et tu dois te renseigner, quoi.
Ouais. Et puis après, juste après, vous avez lu Céline.
C'est ça.
Juste l'année d'après.
C'est-à-dire en première, Céline.
Voyage au bout de la nuit.
Ouais.
Et vous dites que c'est à ce moment-là que vous avez découvert ce que c'était le style.
J'ai compris que la littérature, c'était aussi un style, c'est-à-dire... les mots mis en forme d'une certaine, enfin agencés d'une certaine manière et choisis d'une certaine manière pour produire des sensations, quoi, comme la musique. Ça, c'est une déflagration, ouais, qui va vachement compter longtemps, parce que je veux dire, voilà, pendant longtemps, j'ai négligé complètement l'idée des personnages, de l'histoire. C'était Céline disait ça dans ses entretiens. le journal en est plein des histoires, on n'en a rien à faire et tout.
Ouais.
Et je pense que pendant longtemps, j'ai écrit des trucs vraiment chiants parce que, à cause de ça, quoi. J'ai renoncé à certaines formes de snobisme sur le tard. C'est-à-dire, je pense que pendant longtemps, j'étais très imprégné par des postulats modernes. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la forme. L'histoire, on s'en fout. Le divertissement, on s'en méfie. Le plaisir, c'est secondaire. Toutes ces... Ouais, voilà. Ce qui compte, c'est de rompre. Et puis d'être original, d'être singulier, d'être artiste. Et puis, petit à petit, et par le biais du polar, du roman noir, je suis revenu un peu là-dessus en me disant, même politiquement, c'est quand même bien de pouvoir intéresser le plus grand nombre.
Mais vous, ce qui est particulier aussi, enfin, je crois, dans votre parcours, là, c'est que là, vous me parlez de, oui, de votre amour de la littérature qui vient assez vite, mais la figure de l'écrivain, elle vous plaisait aussi très tôt.
Ah
ça,
ouais.
C'est peu commun.
Je ne sais pas très bien.
Mais très, très tôt, en fait.
Ah oui, oui. Ben, 7-8 ans, je me suis fait offrir une machine à écrire, un jouet, ouais. Quoi. Mais, et je jouais à l'écrivain.
C'est vrai que vous écriviez les films en voyant les bandes-annonces des films?
On n'allait pas au cinéma. Et des fois, ça me frustrait tellement que j'inventais l'histoire à partir d'une bande-annonce. Quoi. Je comblais les trous. Le cinéma, c'est ça, hein, c'est comment dire, la dialectique entre ce qui est montré et planqué. Il y a une bande-annonce, ouais. A fortiori encore plus, presque rien n'est donné. Et ça me rendait ouf.
Dans les bonnes bandes-annonces, oui.
Je me souviens notamment de, c'était en 88, les Goonies. Putain, mais c'était presque intolérable de ne pas voir le film. Alors j'avais écrit l'histoire.
Et vous écriviez quoi, sinon, sur votre machine à écrire?
Bah, des petites nouvelles, des petites histoires, et puis plus tard... Alors dans des carnets, mais ouais. Des poèmes, et en première terminale, j'avais aussi des cahiers où j'écrivais des nouvelles. Ça doit encore être quelque part.
Parce que dès l'enfance, ça a été quand même un endroit de l'écriture, je veux dire, de valorisation aussi. C'est-à-dire, non, vous aviez des facilités, on lisait souvent vos devoirs, vous étiez applaudi pour ce que vous écriviez. Enfin, c'était un endroit aussi narcissisant, en fait.
À fond.
Où vous sentiez... valorisé, et j'imagine différent aussi, même, non? Enfin, ça vous distinguait énormément dans votre famille d'être l'écrivain?
Au départ, ça vient quand même de certaines facilités que j'ai cultivées. C'est-à-dire, peut-être que si j'avais été très bon athlétiquement, ma vie aurait été différente. Moi, j'avais vraiment des facilités avec le langage. Ça me permettait, oui, de me distinguer, d'être... je me souviens, la première fois qu'on a lu un de mes textes en classe, je m'en souviens, je le ressens presque le truc, hein, là. L'orgueil.
Oui,
ça
oui.
M'a fait jouir, mais profondément. Et j'étais particulier, j'étais un peu célébré, j'avais trouvé ma place un peu.
Ouais. Ouais. Après, vous êtes allé, je crois, à l'école catholique.
Dans le privé, ouais, c'était privé. À chaque fois des écoles catho. Ouais.
Et vous dites que, en tout cas, au moment du lycée, vous avez vraiment pris conscience des classes sociales, des petites distinctions, de ceux qui revenaient des vacances, de ski.
Ouais,
de...
je crois que j'en ai pas pris conscience à ce moment-là, mais que j'ai commencé à en souffrir à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est rétrospectivement que je me suis rendu compte que c'est ça qui se jouait.
Ouais.
Mais sur le coup, je me contentais de penser que j'étais un tocard et que j'étais pas cool, quoi. Et ceux qui avaient des moyens, ils étaient plus cool. Ils habitaient en centre-ville, ils avaient des motos, ils allaient au ski l'hiver.
Ils faisaient du skate.
Ils avaient des baskets cool, ils faisaient du skate, exactement. Ils étaient plus à l'aise, grosso modo. C'est un peu, c'est un peu vite dit, mais c'était comme ça. Et moi, je le prenais pour argent comptant, quoi. Et je les enviais. Et dans tous mes bouquins, on sent bien ça, qu'il y a toujours un petit chose qui regarde quelqu'un au-dessus de lui, quoi. Une fille, un garçon, il se dit « putain, j'aimerais bien occuper cette place ».
Ouais.
Puis, c'est les premières fois où on se rend compte aussi que le monde... Enfin, moi, j'étais fils unique. Tout l'amour m'était dévolu quand j'étais petit. Et puis un jour, on tombe amoureux, on se rend compte que ça marche, ça va pas marcher comme ça, quoi. Que ça va être un peu plus compliqué dans la vie. Donc ça, c'est des grandes fractures aussi, oui.
Ça, vous en êtes rendu compte tôt ou...
En amour?
Ouais.
Ah ouais, quatrième. Ça commence à être douloureux. C'est souvent une année de bascule pour la quatrième. Ce motif-là des amours unilatérales, qui est le point de départ de leurs enfants après eux. Et même dans Aux animaux, la guerre, il y a ça. même dans Connemara, en fait.
Ouais.
C'est un truc qui va structurer longtemps ma vie, oui.
Justement, si on parle de goût, après aussi, dans votre parcours, vous passez votre bac, et puis après, vous, Vous commencez par faire des études d'histoire, oui. Je crois, en Nancy, justement. Et vous dites d'ailleurs que ça vous a pas mal forgé parce que ça vous a entraîné vers un refus de l'université, des ouais. choses, en fait. Ça, c'est quelque chose qui a été très fondateur pour vous.
L'histoire, ça a été une histoire d'amour.
Ouais.
Et encore maintenant, ça me passionne et parce que ça enseigne des grandes leçons de vie, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a un peu le côté « rien de nouveau sous le soleil ». Quand même, la nature humaine, depuis le temps, c'est un peu toujours la même, quand même.
Ouais, ouais.
Il y a une sorte de fatalité, comme ça, de notre ouais. condition.
Ça, vous avez ça.
Ouais.
Ouais.
L'idée aussi qu'un monde, il est tramé d'intérêts contradictoires, que c'est une bataille sans fin. Il n'y a pas un bien, finalement, qui va triompher, et que tout est toujours rejoué. Aucune lutte n'aboutit jamais vraiment. Il n'y a pas de clairière en histoire. Il n'y a pas un endroit où on arrive et on pourrait se reposer.
Ensuite, vous faites une année, je crois, à Metz, parce que vous voulez devenir scénariste, donc vous êtes en art du spectacle. Donc là, vous bouffez énormément de films, encore plus. Et après, vous allez à Paris, à la Sorbonne, et vous dites que ça a été marquant, parce que là, pour le coup, vous vous êtes pris une petite violence sociale quand même. Là, vous n'aviez pas les codes, tout à fait, là.
Ah ben, j'étais un provincial, quoi. C'est-à-dire, j'arrivais avec un accent, des manières, des vêtements, et... J'étais en histoire de l'art, donc j'avais que des copines, il n'y avait presque pas de garçons, quoi. Et je me souviens d'amis qui m'ont dit « Mais tiens, tu peux pas dire ça, tu peux pas t'habiller comme ça. » Et j'ai commencé à corriger mes attitudes, à les modifier pour rentrer dans les cases, quoi. C'est vraiment une histoire vieille comme le monde, ça. Hein.
Si c'est vrai.
Ouais. Dans Le Rouge et le Noir, Sorel, il fait ça. Bourdieu, l'accent du Béarn à l'ENS, c'est la même chose. Enfin,
mais
prépa.
Il dit d'ailleurs, et c'est ouais. très émouvant, qu'il a toujours peur de prendre la parole en public, alors qu'il a la carrière qu'il a. Enfin, il est déjà bien âgé quand il raconte ça. Mais que ça ne l'a jamais quitté, en fait. Quoi.
Moi, je pense qu'il y a des complexes qui demeurent. Ouais. Depuis le prix Goncourt, je suis quand même amené des fois à fréquenter des milieux... cosmopolite ou très bourgeois oui. ou tout ça. Et j'ai peur tout le temps de commettre des impairs. Mais même dans les manières de table. La première fois que j'étais invité dans une ambassade, c'était la panique, quoi. Mmh. Je me suis dit, comment je vais m'habiller? Bon, ben voilà.
Le prix Goncourt, justement, ça a dû changer quand même le regard qui a été porté sur vous aussi. Enfin, j'imagine qu'immédiatement, on n'est plus regardé pareil. Enfin, il y a une validation.
Alors, et puis c'est très brutal parce que c'est d'une heure à l'autre. Alors... La veille, vous êtes personne, comme dirait l'autre, et le lendemain, on vous considère. La veille, ce que vous dites, ça vaut la parole des autres. Et le lendemain, d'un coup, on vous cite. Enfin, c'est vraiment très brutal. Mmh. Et à certains égards, je m'y suis toujours pas totalement fait. Je suis surpris encore. Quand j'interviens sur Insta, des fois j'écris des trucs, puis je suis dans mon lit le matin, je me rends pas compte. D'un coup, ça fait boule de neige et je me dis, putain, en fait, je me rends pas compte quoi, des effets que ça produit. Ça laisse de la parole d'une légitimité qu'elle a pas sans ça. Peut-être que le truc le plus comparable, ce serait une agrégation ou un passage par une grande école.
Ou une thèse.
Ça assoit, ça légitime des... quelqu'un, quoi. Sauf qu'il y a un côté un peu aléatoire. Je veux dire, toute cette affaire-là, ça ne s'est pas fait totalement au mérite. Ça ne s'est pas construit comme une agrègue ou une thèse, justement. Ça m'est un peu tombé dessus comme la foudre. À la fin, ça joue quand même à pas grand-chose et il faut beaucoup de chance. Et ça aurait pu me passer à côté. Et puis, c'était comme ça pour la vie, quoi. C'est un peu dur à métaboliser, ouais.
Et on parlait de Paris. Paris, vous avez vécu une quinzaine d'années, je crois, à Paris. Puis donc, vous avez quitté cette ville. Et dans vos romans, enfin, je pense à Hélène, par exemple, dans Connemara, qui fait un peu le même parcours. Enfin, elle quitte Paris, elle fait tout ce qu'elle pense qu'il faut faire pour réussir sa vie, enfin, ce que la société lui dicte. Et puis finalement, elle se rend compte que... c'est peut-être pas ça qui la rend heureuse. Mmh. Elle quitte Paris. Et Paris, ça reste la ville imprenable, un peu. Enfin, la ville...
Ah bah, complètement. Mais je ne peux pas mieux le dire que ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. On ne peut pas prendre Paris. Ce truc, c'est à nous deux Paris, que dalle, quoi. C'est une ville... sans doute qu'il faut y être né, quoi.
Parce que sinon, quoi, le retard, il est trop grand à rattraper. Enfin, par rapport à vous dites à un moment, c'est assez fort que vous avez eu l'impression que vous aviez passé vos études, alors à travailler fort pour essayer de rattraper à peine le niveau qu'avaient déjà certaines personnes juste par l'endroit où elles étaient nées, en fait.
Ouais, mais alors ça, c'est plus des questions socioculturelles. Pareil, c'est encore autre chose. C'est une géographie. Alors. Ça peut se cumuler, hein.
Ouais.
Ça a défrayé la chronique là, récemment, mais on voit bien quand on est né dans le 7e arrondissement, il se passe des choses dans votre vie qui ne sont pas exactement les mêmes que si vous êtes né à Vesoul. Donc ça compte. Et c'était même un peu douloureux de ne pas pouvoir m'emparer de cette ville. Par exemple, je n'ai jamais su vraiment m'y déplacer sans prendre le métro. Ça veut dire que cette ville, elle me reste masquée dans mes déplacements. Ouais. Elle ne m'est pas accessible. J'y ai fait très rarement du vélo. Donc, en fait, je ne saurais pas m'y promener. Je me souviens, à un moment, j'ai eu vraiment une passion pour Modiano. Et Modiano, la géographie parisienne, il l'explore quand même beaucoup. Alors, pas tous les arrondissements, mais on peut suivre ses traces dans Paris. Et je faisais des balades comme ça, les traces de Modiano. Et c'était douloureux parce que je me rendais compte que jamais j'arriverais à cette intimité avec cette ville qui restait quand même extérieure. C'est comme si on tendait la main vers quelque chose qui sans cesse vous échappe. Ouais. Et puis aussi, Paris, j'y ai été pauvre et c'est très dur, Paris, quand on n'a pas de pognon. C'est-à-dire qu'on regarde, on lèche les vitrines, quoi. Mais on ne rentre pas. On ne rentre pas dans les restaurants, on ne rentre pas dans les... Le mépris des vendeurs dans les magasins, c'est un truc de fou à Paris. J'ai des expériences chez American Apparel ou
c'est fermé maintenant.
Oui, enfin des trucs comme ça. On a l'impression que les gens nous regardent tellement de haut, etc. Aujourd'hui, j'ai quand même davantage de moyens. C'est plus du tout le même rapport, en fait. Ça a changé aussi de ce point de vue-là.
Et si on parle de goût, justement, vous avez l'impression que, en tant qu'écrivain, que ça a commencé à fonctionner pour vous. Je veux dire. Je ne parle pas que de succès critique, mais à fonctionner. Vous avez commencé à écrire des choses qui vous plaisaient à partir du moment aussi où vous avez accepté de peut-être d'arrêter, de rejeter justement le goût initial et que vous, enfin les origines, et que vous avez commencé à écrire finalement avec ce que vous aviez, sur ce que vous connaissiez, parce que c'est ce que vous avez fait en fait.
Ouais, exactement. Oui. C'est à partir du moment où j'ai accepté ce que j'étais depuis l'enfance et où j'ai assumé quand même ma provenance. Que des formes de sincérité se sont mises en place, que j'ai commencé aussi à parler de ce que je connaissais. Peut-être qu'avant, j'avais écrit beaucoup pour accéder à un monde.
Ouais.
Qu'après, j'ai écrit pour témoigner de mon monde. Mmh. Puis là, je suis dans une situation un peu intercalaire où j'appartiens plus vraiment au monde de départ. Je sais pas très bien où j'ai atterri. Par moments, ça me cause des problèmes. Et c'est peut-être à cet endroit-là. Mmh. Enfin, Connemara, c'est quand même un roman de l'entre-deux et du... Du fil tendu, quoi.
Ça m'intéresse la façon dont vous utilisez aussi des objets de la culture populaire qui vont être, par exemple, les chansons, en fait.
Ouais.
Par exemple, dans les enfants après eux, il est structuré par des chansons, en fait, enfin les chapitres. Et puis, il y a cette chanson de Nirvana qui est très importante, en fait, dans le livre. Et puis après, je pense aussi à Connemara qui, dans un tout autre style, bon, ben, c'est une chanson, c'est un socle commun. Tout le monde connaît cette chanson, mais en fonction de l'endroit où on l'écoute, on va pas l'entendre pareil. Enfin, le contexte, et ça, c'est vraiment la problématique du goût, va vraiment changer. Ça vous intéresse d'utiliser ces objets, en fait
Il y a effectivement une démarche un peu intellectuelle. C'est-à-dire, je me dis, c'est des objets qui sont significatifs et qui disent des choses de nous et puis qui raniment des sensations. Et puis, puisqu'on parle du goût, je pense que j'ai eu très longtemps honte de mes goûts véritables et que j'ai essayé de les planquer. À l'adolescence, on fait semblant d'aimer des groupes cool, plus tard d'aimer des musiques légitimes et tout ça. Et puis en fait, moi, Connemara, ça m'émeut, quoi. Et quand je l'entends en voiture, ça me serre la gorge.
Ouais.
Et alors, il faut bien pouvoir le dire et d'une manière. Parce que c'est partagé, je pense.
Ouais.
Et une partie de mon effort littéraire consiste à légitimer des goûts sans noblesse, oui.
Mais vous avez l'impression que vous-même, vous avez mis du temps presque à savoir ou à admettre ce que vous aimiez ?
Non, j'étais longtemps conformiste. Et puis, de plus en plus, je fais confiance à mon corps, en fait. C'est-à-dire que quand on jouit, quoi. Il faut un peu... faut se laisser porter. Et cette position-là, donc d'être un écrivain goncourisé et de dire, ben, en fait, Sardou, c'est cool. Enfin, c'est pas ça.
Ça peut être émouvant.
Ça peut être émouvant, merci.
Voilà.
Oui, c'est ça. Ça nous touche, ça dit des choses de nous, etc. Je me sens à ma place de faire cet effort-là, littérairement.
Oui. Et puis, ça vous plaît aussi d'employer des formes qui peuvent être... Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense à l'utilisation du polar que vous avez fait, ça se rejoint un peu aussi. C'est des formes qui sont populaires, qui peuvent être comprises par beaucoup. C'est aussi un souci.
Alors oui, si on regardait mes romans un peu à la loupe dans leur structure, ils empruntent autant aux grands romans du 19e siècle qu'à la série télé. Ouais,
oui.
Vraiment.
Oui.
Et
The Wire, tout ça, ça vous a beaucoup plu?
Les Sopranos.
Les Sopranos,
ouais, c'est très, très, très structurant dans ma vie.
C'est vrai? Qu'est-ce qui vous a autant plu? Enfin, je comprends, c'est une des meilleures séries jamais faites.
Ouais.
Mais...
Déjà, je l'ai vu deux fois. Donc, c'est 81 épisodes. Ça prend du temps dans
votre vie. Un certain temps dans votre vie, ouais.
Et puis alors, il y a plusieurs niveaux là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau de la jouissance du genre. C'est une histoire de mafieux. Et donc, c'est un polar. Ça, c'est le premier niveau et on accroche tout le monde. Là, tout le monde monte dans les wagons. Et dans mes bouquins, il y a quand même toujours des personnages avec des objectifs, des obstacles. On monte. Il y a du récit. Derrière ça, il y a la peinture d'une société et du fonctionnement familial, les structures. Et il y a encore une troisième couche qui est la plus planquée, mais la plus grande, c'est que c'est une réflexion presque métaphysique sur notre condition. C'est-à-dire qu'entre le premier épisode et le dernier, le temps a passé. Et il a passé sur les corps, il a passé dans les histoires, et il nous a révélé des choses sur la nature des gens. Et ça, c'est vertigineux. L'un des derniers plans, c'est sur Junior Soprano, qui est à l'EHPAD. Et dans la première saison, c'est lui le boss, voilà. Tout est dit là-dedans.
Oui, et puis je lisais sur votre Instagram, là, je crois que c'était un post, c'était une citation une page de Françoise Sagan, où elle dit, je ne sais plus exactement, mais qu'elle veut écrire sur le quotidien, parce que le drame, c'est le temps qui passe.
Ouais.
Qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que ça. Enfin, que c'est ça le plus difficile à faire.
Exactement. C'est les choses de la vie, quoi.
Ouais.
Bah, dans le ciel ouvert, c'est un peu ça. C'est-à-dire,
sur
trois fois rien, le paquet de céréales le matin sur la table du petit-déj. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des choses qu'on partage tous. C'est un objet, il est relié à plein de choses, la famille. Tout ça, ça doit pouvoir se dire. Et c'est peut-être les grands drames, pas au sens de catastrophe, les grands drames, c'est-à-dire les grands conflits. C'est pas sauver la planète des extraterrestres. C'est des choses qui se font à bas bruit. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une vie réussie? Qu'est-ce que c'est d'élever des enfants? C'est tellement incertain, obligatoire quand on en a, etc. Enfin, tout ça, comment rendre ça?
Bah, ces questionnements, effectivement, ils traversent le ciel ouvert. Donc ça, c'est le nouveau livre que vous sortez, qui est accompagné de dessins d'Aline Zolko. Et au départ, c'est des textes que vous avez écrits sur les réseaux sociaux.
Ouais.
C'est ça, le point de départ, pour une femme qui n'est pas libre. C'est ça, au départ?
Il y a différents textes dedans.
Ouais.
Au départ, c'est ça. Il y avait des formes de déclaration d'amour à ciel ouvert, d'où le titre. Ça a donné lieu, oui, à des textes sur l'absence, le manque, les retrouvailles, le désir. Puis aussi
la transmission, beaucoup aussi, entre père et fils, entre les générations, entre qu'est-ce qu'on arrive à se transmettre, qu'est-ce qu'on ne se transmet pas, qu'est-ce que...
Ouais, et puis sur le passage du temps, parce que les parents qui prennent de l'âge, les enfants qui grandissent, nous on est au milieu de ça et on essaye de tenir... Tout ça ensemble.
C'est assez mélancolique, il y a des endroits où c'est assez, pas désespéré, mais quand même assez noir. Enfin, c'est assez mélancolique quand même. Vous êtes très mélancolique, vous?
Pas mal, oui.
Ouais.
À la fin, ça se finit pas très bien quand même, quoi qu'on en dise.
Vous connaissez la fin, vous?
J'ai une idée assez précise de comment ça va finir.
Ouais.
C'est que ça va finir.
Ouais.
La mélancolie, c'est la conscience que le temps n'est pas illimité, qu'il passe à toute vitesse et qu'il faut agir en connaissance de cause. Mais, parce qu'il y a un grand mais quand même, c'est que si dur que ça soit et si désespéré que ça puisse paraître, ça vaut terriblement le coup et tout ça est infusé de joie. Et la joie, c'est-à-dire, c'est ces moments où on se sent vivre, on effectue des puissances, on réalise des choses, on aime, on tient le coup, voilà.
On n'aime pas pareil d'ailleurs, parce qu'il y a ça aussi qui traverse aussi les textes en fonction de l'âge qu'on a, en fonction du temps qui passe. On n'aime pas pareil à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, enfin, c'est ce que vous dites.
Ouais, je pense qu'on peut avoir des amours passionnels toute la vie. Je pense qu'on peut devenir, en vieillissant, sensible à d'autres formes d'amour aussi, qui sont de l'ordre de la patience, du temps long, du soutien, du soin, de l'inquiétude, du soutien. C'est des choses qui sont moins valorisées, c'est moins Sturmundrang, c'est moins romantique, mais peut-être qu'à la fin, c'est ça qui vaut peut-être le plus le coup, quoi. La littérature et les histoires en général survalorisent l'éclair, ouais, les intensités verticales. Et peut-être qu'il faudrait s'intéresser aux horizontalités aussi, ce qui s'étend, plutôt que ce qui monte.
Le goût de M.
Attends, des bouquins partout, hein. Il y a des bouquins partout dans cette maison.
Vous avez vu.
Donc, alors, où est-ce qu'on est là? On est près de la pièce où il y a le piano.
Alors voilà, alors ça, le piano. Donc moi, je suis vraiment une bille en musique.
Ouais.
J'en écoute finalement assez peu. J'y comprends pas grand-chose et c'est un peu un angle mort de ma culture. Donc à un moment de ma vie, enfin voilà, il y avait une femme dans ma vie qui faisait du piano et je m'étais dit, c'est le moment de t'initier à la musique, d'enfin essayer d'y comprendre quelque chose. Et j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai acheté un piano tout neuf et j'ai pris des leçons et tout ça, mais finalement, comme tous ces trucs-là, ça dure un an. Et à la fin, ben voilà, on a du mobilier. On a un piano sur lequel on met des objets.
Mais c'est un tuteur, alors, finalement, cet objet-là.
Alors, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire, je me suis dit, au lieu de me dire « Ah putain, ces bourgeois avec leur musique, ils me saoulent, je vais dépasser le truc et moi-même, je vais apprendre à faire de la musique et du piano. »
Et alors, il sonne comment, ce piano, non?
Ah bah très bien.
Voyons.
J'y ai pas touché depuis des mois.
C'est vrai.
Voilà, bon, c'est une improvisation totale, c'est pas très brillant, mais c'est bien le genre de conneries que je fais, quoi, des engouements passagers ou alors des engagements qui tiennent pas forcément très longtemps dans la durée, quoi.
Nicolas Mathieu, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent? Ils sont importants pour vous ou pas?
Je suis assez fétichiste. Alors, j'aime bien les détails, les objets, ça paraît comme dans l'enfance, quoi, la panoplie, et puis les livres, etc. Ouais. Je trouve que ça devient un peu envahissant, en fait.
Parfois, les objets?
Ouais. Parfois, j'aimerais bien avoir une vie davantage les mains dans les poches. C'est lourd, le côté escargot, quoi. Enfin, d'avoir tout un monde à trimballer comme ça avec soi.
C'est quoi les objets qui sont importants pour vous? Les livres? Il y a beaucoup de livres. Vraiment beaucoup.
Ouais, moi, c'est principalement parce que les livres, ça sert à la fois de... C'est un côté fétiche, il y a un côté décoration, et puis c'est des présences. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même des amis possibles. Bah, vous voyez, il y a des couvertures qui sont retournées, on voit Pérec là, où il y a Manchette, etc. C'est des compagnies aussi, les livres.
Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas?
Ouais.
Ouais. Bah ouais.
Je rigole parce que, en fait...
Pourquoi?
Parce que c'est un truc que j'adore, en fait. Acheter des vêtements, etc.
Ah, c'est vrai.
Et on m'a déjà dit plusieurs fois, on voit que vous n'en avez rien à faire. Donc, donc c'est extrêmement discret, j'imagine. Mais
Vous aimez quoi? Les chemises.
Ouais.
Vous avez beaucoup de jolies chemises.
Les chaussures, les chemises, les montres. Les chaussures, les montres, c'est un peu des objets où on peut investir un peu de libido dans les vêtements.
Et alors vous aimez quoi? Vous aimez quel type de choses? Vous êtes pas de me dire des marques, mais quel type de choses vous aimez?
Oh ben, moi je suis resté très... Ça doit venir d'aller des écoles privées, mais moi je suis prépi en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, vous savez, c'est les écoles préparatoires américaines, c'est pull col rond, une chemise à carreaux, et je suis content, quoi.
Un imaginaire américain, plutôt.
Ouais, ou anglais,
ouais,
ou
anglais. Voilà, ouais. Vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué au cours de votre vie, ou que vous aimez un peu toujours les mêmes choses?
Bah, moi, j'aime toujours un peu les mêmes choses.
Hein. Ouais.
Mais c'en est ridicule, en fait. Ouais, j'ai l'impression quand même que les grandes passions, les appétits fondamentaux se fixent assez tôt et qu'après, les grandes ruptures se font rares. Voilà. Après, je peux m'en ticher d'écrivains que j'ai jamais lus avant ou autre chose comme ça. Récemment, Colette et Giono ont pris beaucoup de place dans ma vie, alors que je connaissais pas il y a 10 ans du tout.
Vous lisez des choses très contemporaines ou pas forcément ou vous...
Ça m'arrive, mais ouais. Beaucoup moins. Moi, je lis plus des morts hein, quand même, hein, franchement. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà que c'est plus facile de s'assurer de la qualité. C'est-à-dire que le tri a été fait un peu. Et puis, un truc moins avouable, mais moi, ça marche comme ça. C'est que quand je lis mes contemporains, j'ai un peu l'impression d'aller au boulot, quoi. C'est-à-dire, c'est moins intime comme lecture. C'est des gens que je connais, j'ai fait des salons, on se retrouve dans les mêmes journaux. Parfois, on est pris dans des débats, on a des conflictualités, des machins. J'ai pas toujours envie de ça, en fait. Il y a un rapport d'intimité, d'alcôve, c'est-à-dire d'être à l'abri.
Pour soi, quoi.
Ouais, ouais, exactement, dans la littérature du passé, qui est plus grande, quoi.
Et vous écoutez beaucoup de musique ou pas?
Non.
Non?
Ouais, ça c'est vraiment le...
Vous restez sur vos amours adolescentes?
C'est pas ça, c'est que j'écoute peu de musique en fait.
Ouais.
Non, non, parce que alors par exemple, j'ai une passion honteuse dont je me vante pour Miley Cyrus, donc c'est des choses récentes.
Ah oui, mais j'ai vu que vous aviez posté sa magnifique permanente
Près
de Sue Ellen, Dallas.
Exactement.
Mais c'est vrai.
Ouais. Moi, elle me fascine complètement, vraiment.
Ah oui? Qu'est-ce que vous aimez chez elle?
Bah, le côté white trash, en fait. C'est, elle est milliardaire, mais derrière, on sent qu'il y a une gamine à la voix rauque qui est sans gêne et qui crie, quoi. Et ça me touche, mais beaucoup, beaucoup, quoi.
Ouais. Et à part Miley Cyrus, qu'est-ce que vous aimez?
Bah, Biolay, j'aime beaucoup. Hein, mais parce que aussi, c'est très bien écrit. Alors, ça me touche quand c'est bien fait. C'est bien fichu. Ben, Armanet, j'aime bien... Je suis quand même assez genre à me passer des chansons en boucle. Moi. Alors, récemment, par exemple, j'ai fait une fixation très bizarre sur Shallow, la chanson du film Star is Born avec Lady Gaga.
Ah oui, 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 oui. Oui.
Et je ne sais pas très bien pourquoi, mais d'un coup, ça s'est mis à me toucher vraiment et je l'écoutais en boucle.
Vous diriez que vos amis ont du goût?
Bah, ils ont les goûts de leur âge et de leur milieu. C'est toujours indissociable. Hein. Enfin, moi, je ne crois pas du tout au bon goût, en fait. Voilà, moi, les gens qui sont de ma génération et qui sont à peu près dans les mêmes milieux que moi, pour faire très vite, c'est un peu des bobos. Donc, ils écoutent des vinyles, ils ont des meubles suédois, ils portent plutôt des baskets. Ils ont le bon goût de l'endroit où ils se trouvent. Voilà. Je pense que j'ai les goûts de l'endroit où je me trouve aussi, que je manifeste... Des goûts qui sont des formes d'ostentation aussi, que j'ai des plaisirs coupables, mais dont je me vante. Donc, c'est aussi des manières de dire quelque chose, des audaces qui n'en sont pas vraiment, plein de choses, quoi, comme ça. Je vraiment, vraiment pas du tout au-dessus de la mêlée.
Vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût?
Je crois pas. Je pense que quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très impur. C'est-à-dire que cette personne, elle renferme des tas de propriétés, et notamment ses goûts. Et ce qui la situe aussi. Les chaussures qu'elle va porter, la manière dont elle va s'habiller, ce qu'elle va aimer lire, faire, etc. Ça compte beaucoup. Je suis déjà tombé amoureux de personnes qui avaient des goûts qui m'humiliaient. Parce qu'elles appartenaient à des milieux sociaux plus élevés que moi, et que par leur goût, en fait, je me sentais renvoyé. C'était à ma médiocrité, sans doute. Ça me signalait la place subalterne d'où je venais, en fait. Ça, c'est dur. Hein. Et ça, c'est le problème des relations transclasses. Quoi.
Oui. Alors, ça serait quoi pour vous, Nicolas Mathieu, avoir du goût?
Je ne sais pas si c'est possible d'avoir du goût. Ce qui serait pas mal, en revanche, c'est d'avoir conscience des ressorts de ses goûts. C'est-à-dire savoir pourquoi on aime ça ou ça et pourquoi ne plus être totalement dupe. Et ça impliquerait une chose qui est quand même vraiment bien, c'est qu'on ne fait plus la leçon aux autres. Parce que ça, vraiment, les gens qui continuent à penser « vous ne pouvez pas aimer ça parce que sinon vous êtes un beauf » ou « vous devez aimer ça, sinon vous passez vraiment à côté de quelque chose », c'est exaspérant au possible.
C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.